Alors c'est l'été.
It's warm.
Il fait chaud.
People are going on vacations.
Les gens partent en vacances.
And every time it turns to summer, I think about
à chaque fois que ça va dans un endroit où je pense à mon endroit favori pour les vacances. Est-ce que tu veux essayer de réparer ça, Yann? Oui.
Hey.
Woohoo.
Thank you.
Merci.
Yes, I know, but those sound people messed it up.
Mais c'est parce que ces gens du son ont cassé toute cette mise en place qui était bonne avant.
And all the obsessive compulsive people.
Voilà, et tous les gens qui sont obsessieux et compulsifs. Donc, c'est l'été. Et je pensais que mon endroit favori pour les vacances est ici, dans cet endroit si particulier. Tu as mis cette photo pour que tout le monde puisse la voir. Voilà, on n'a pas l'air très très beau dans cette image parce qu'on n'a pas pris probablement de douche pendant 3 ou 4 jours. Voilà, merci Scott pour la lumière. C'est un de nos endroits favoris pour partir en vacances. Donc on vient des États-Unis à l'origine, du Minnesota. Et le Minnesota est l'endroit des 10 000 lacs. Et proche de la frontière canadienne, et il y a un endroit à peu près de la taille d'Alsace où il y a plusieurs milliers de lacs dans cette zone-là. Personne n'est autorisé à aller vivre là-bas parce que c'est un endroit complètement sauvage. En fait, si vous êtes venu d'une grande ville, vous êtes arrivé à travers 2 heures dans la nature pour arriver dans cette zone vraiment sauvage. Ce que vous faites là-bas, c'est que vous prenez un canoë et vous mettez tout votre équipage de camping et pour pouvoir avancer votre nourriture et vous transportez tout ça jusqu'au prochain lac et vous voyez personne. C'est un endroit qui est un petit endroit caché où il n'y a personne. Il n'y a aucun service de réseau téléphonique. Vous êtes dans la nature et je l'adore. C'est tout entièrement calme. C'est juste, vous vous évadez dans les endroits avec votre canoë et c'est fantastique. Il y a quelques années, on était en vacances avec ce couple de notre propre église. Donc, Wade et Jamie. Et on a passé une bonne partie de la semaine avec eux. Et on a mis en place des campements sur un endroit vraiment magnifique, très beau. Le soleil était couchant, les moustiques sortaient, c'était le moment de se coucher et de rentrer vite dans notre tente. Et on était juste là à profiter de la nuit dans la nature. Il n'y a aucun son, à part une chouette de temps en temps. Vous êtes juste là couché, à profiter de la beauté de la nature. Et tout d'un coup, ensuite j'ai entendu quelque chose qui a fait que chaque poil sur mon corps s'est hérissé. Je me suis levé brusquement, parce que ce que j'ai entendu m'a fait très 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 peur. Ce que j'ai entendu, c'était un loup. En fait, une troupe de loups, une meute de loups. En fait, Janet et moi, on vivait dans un endroit sauvage. Et c'était possible, pendant l'été, qu'on entendait les loups, loin, à la distance. Et dans cet endroit de sauvage où on utilisait les canoës, c'était en fait normal d'entendre des loups loin à la distance. Mais ces loups n'étaient pas dans le lointain. C'était comme s'ils étaient dans le parking de l'autre côté de la roue. Ils avaient un son plus fort que tout ce que j'ai pu entendre sur les loups. Donc j'étais debout et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu te souviens, Janet? On est dans notre tente. Notre tente en nylon. Et non, on n'avait pas d'armes avec nous. On avait peut-être un couteau de camping. Et c'était tout. C'était une nuit sans aucun sommeil, une nuit blanche. Je vais vous dire ce qui s'est passé plus tard dans le sermon. Mais d'abord, on va être dans 1 Pierre chapitre 5. Et il y a une raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire. Pendant qu'on regarde dans 1 Pierre 5, on a fait plusieurs sermons déjà à travers ce livre, et donc on va finir le livre de 1 Pierre aujourd'hui. Donc on commence avec la deuxième partie, au verset 5. Donc 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Ça dit de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous, soumettant tous les uns les autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Pendant qu'on a étudié 1 Pierre ensemble, on a vu que c'était une lettre écrite à des gens qui étaient sous un stress important. Voilà, des gens qui avaient l'impression d'être des étrangers dans leur pays parce que leur citoyenneté était dans le royaume de Dieu. Et il y avait un temps où on se moquait d'eux, ils étaient persécutés parce qu'ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Et Pierre a eu beaucoup de choses à partager sur comment gérer ce type de stress. Et voici ses instructions finales. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Donc il finit cette lettre avec un appel à l'humilité, d'être et de devenir humble les uns envers les autres et envers Dieu. Comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous vous rendez humble devant Dieu? Comment est-ce que vous vous rendez humble les uns devant les autres? Il nous le dit. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il y a le mot utilisé en grec que la façon de devenir humble, de s'humilier devant Dieu et de décharger sur lui tous vos soucis. C'est la méthode pour s'humilier devant Dieu, pour être humble. Quelle est la connexion entre s'humilier devant Dieu et l'anxiété? Quelle est la connexion entre les deux? Ça me semble être l'opposé de l'humilité. J'ai l'impression que l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Soit vous êtes quelqu'un qui est humble, soit vous êtes quelqu'un qui est orgueilleux. Ça, ce sont les deux différences. Alors pour moi, c'est la manière dont on devient humble, c'est en se déchargeant de notre anxiété et nos soucis. Alors d'une certaine manière, si j'ai de l'anxiété, ça doit être lié à l'orgueil. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Notre anxiété est liée à notre orgueil. Comment est-ce que cette connexion se fait? Comment est-ce que sa connexion se fait? J'aurais peut-être dû vous poser cette question avant. Combien d'entre vous sont anxieux à propos de quelque chose? Ouais, vous savez, on a de l'anxiété. Il y a des choses pour lesquelles on a des soucis qui nous inquiètent. Comment est-ce que décharger notre anxiété indique une humilité? L'anxiété est en partie à ses fondations dans cette idée que j'ai de pouvoir gérer moi-même une situation, que je dois pouvoir gérer la difficulté, que je dois être suffisamment fort, intelligent, riche pour pouvoir gérer n'importe quelle situation qui me rend anxieux. Ok? Nous ne sommes pas suffisamment forts. Nous ne sommes pas suffisamment riches. Nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour gérer toutes les situations qui viennent sur notre chemin. Donc, on doit prendre tout ça et le donner à Dieu. Certains d'entre nous sommes inquiets à propos de nos situations au travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon travail finit au mois d'août. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Comment est-ce que ça va fonctionner? Et quand on y réfléchit, quand on y pense, on est anxieux. Et on oublie les mots de Jésus. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit, ne soyez pas anxieux. Dieu a le contrôle. Alors prends cette anxiété que tu ressens et donne-la à Dieu. Et dis, Dieu, je suis trop grand pour gérer tout ça de mon côté tout seul. Je te donne cette anxiété. Je te le donne. Je Je te donne mes inquiétudes à propos de mon travail. Je te donne mes inquiétudes à propos de mon mariage. Je te donne mes inquiétudes à propos de mes enfants. Je te donne mes inquiétudes à propos de ma santé. Je te donne tout ça, Seigneur. Je ne suis pas assez fort pour pouvoir gérer tout ça. Je te le remets. Et mon but est juste de marcher avec toi. Parce que je sais que tu contrôles tout ça et que ta manière de faire est la meilleure pour moi. Je ne serai plus anxieux. Je vais te faire confiance. Dieu prend soin de vous. Et il se soucie de vous. Il se soucie de nous. Quelle est la différence avec Satan? Satan est notre ennemi qui veut nous dévorer. Il veut nous détruire. Et il est très bon à ça. Ça dit dans ce passage qu'il marche autour comme un lion rugissant qui cherche les proies qu'il peut dévorer. Les lions rugissent pour deux raisons. Ils rugissent pour communiquer sur des longues distances entre eux et ils rugissent aussi de temps en temps quand ils sont en train de chasser. Parce que le rugissement étant si fort qu'il l'est, fréquemment paralyse ses proies par la peur. Ça les paralyse par la peur. Ce qui les autorise à être dévorés, ce qui leur fait faire des choses qu'ils ne feraient pas, notamment. Combien d'entre vous ont déjà fait quelque chose de stupide parce que vous aviez peur? J'ai fait des choses stupides, vous savez. Et Satan fera ça. Il va rugir pour vous inculper de la peur dans votre cœur. Des fois, le rugissement peut être un rugissement lointain. Et ça cause juste un niveau d'anxiété plutôt faible, petit. Voilà, donc à Minnesota, dans le Nord, on entendait les loups, mais on dormait dans le lit, avec les fenêtres ouvertes, on l'entendait. Et ça nous rappelait simplement qu'on vivait dans un endroit très, très sauvage. Non, ça ne faisait pas peur. On était au sol. Mais c'était ça, c'était là. Ouais, quand vous randonniez dans la forêt, vous saviez qu'il y avait des loups autour. Donc c'est un bas niveau d'anxiété. D'autres fois, le rugissement est beaucoup plus proche. Et l'anxiété et les peurs qu'elle inculpe sont incroyables et tellement énormes qu'elles nous submergent. Et du coup, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Est-ce que je peux vraiment croire en Dieu dans cette situation qu'il va la régler? Certaines fois, le rugissement de Satan est très subtil. Pensez au jardin d'Éden. Vous n'associez pas la peur là-bas, mais dans le jardin d'Éden, le serpent est arrivé et a tenté Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit
«
Oh non !» Non. Si vous mangez de cet arbre, vous serez comme lui. Il n'a pas votre meilleur intérêt à cœur. Vous devez prendre contrôle de la situation. Finissez la journée. Prenez la journée et allez-y. Vous ne pouvez pas croire Dieu. Vous devez vous croire vous-même. C'est ça que Satan a dit au jardin d'Éden. Et Ève et Adam ont commencé à s'inquiéter. Est-ce qu'on est vraiment en train de vivre la meilleure vie? Est-ce qu'on rate quelque chose? Est-ce qu'on nous a menti? On ferait mieux de prendre contrôle de cette situation par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et ils ont attrapé le fruit et plongé l'humanité dans les ténèbres à cause de ce que le destructeur d'âme, Satan, leur a murmuré à l'oreille. Il fait la même chose avec nous. Aujourd'hui même, il nous murmure à l'oreille et il nous implante des mensonges au fond du cœur qui nous causent d'avoir de l'anxiété, de ne pas croire Dieu. Et il nous envoie la destruction. Il nous guide vers notre propre destruction. Au lieu d'avoir toutes ces peurs, il faut qu'on ait cette attitude de pouvoir les donner à Dieu. Voilà, je n'étais pas construit, je n'étais pas câblé pour faire ma vie seul. J'ai été créé pour faire ma vie dans une connexion avec toi. Alors le diable peut rugir tant qu'il veut, je m'agrippe à toi, Seigneur, et toi est ma source de pouvoir, ma source de force et ma source d'espoir. Tu es ma source de joie. Je n'ai pas d'inquiétude à propos de mon mariage. Je veux m'accrocher à toi, être obéissant à toi et t'appeler toi quand j'ai besoin de force dans mon mariage. Et je sais que tu vas travailler dans mon mariage en même temps que je vais m'accrocher à toi et que je n'ai rien à craindre. Je sais que mes ressources financières, toutes les ressources que j'ai pour faire tes vœux sont garanties par toi-même en même temps que je marche avec toi. Et pendant que je m'accroche à toi, je sais que tu me donneras mon pain quotidien. Et je sais que dans ce process, ce sera peut-être même du pain quotidien. Peut-être que les tiroirs sont vides, mais aujourd'hui, je vais manger. Et demain, je mangerai aussi, parce que je sais que tu es loyal. Et que tu nous donnes notre pain quotidien pendant qu'on te suit. Ce n'est pas à propos de ma propre force, mais c'est à propos de ma relation avec toi qui, je sais, est bonne pour moi. Alors je vais poser mon anxiété et mes soucis. Parce que mon anxiété ne sert à rien. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Paul écrit de la prison dans le livre de Philippiens. Chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et de ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Réjouissez-vous, ne soyez pas anxieux, envoyez vos requêtes à Dieu et dites-lui, Dieu, j'ai besoin de mon pain quotidien. Seigneur, je te demande de travailler dans mon mariage. Seigneur, je te demande de travailler dans ma situation professionnelle. Et je te remets tout ça, Seigneur. Je me concentre sur les bonnes choses. Je me concentre sur ce qui est bon et pas ce qui est mauvais. Je me concentre sur ce qui est positif et non négatif. Et je mets en pratique, j'obéis les enseignements de ta parole et ta paix entrera dans ma vie et coulera dans ma vie. Je te remets mon anxiété pour rentrer dans ta paix. Janet et moi tenons nos mains. Est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas eu d'autre chose de mieux à faire avec les loups qui hurlaient dehors? Soudainement, je n'avais aucune habilité de me défendre moi-même ou même ma femme de cette meute de loups. Voilà, mon petit couteau de camping n'allait pas faire grand-chose. On s'est fait dévorer cette nuit. Non. Non. Rien ne s'est passé cette nuit. Rien ne s'est passé cette nuit-là. On s'est finalement endormi. Les loups ont arrêté d'hurler. Et ça fait peur. Parce que quand ils ont arrêté d'hurler, ça veut peut-être dire qu'ils étaient prêts à commencer à manger. Mais on n'a rien entendu pendant plusieurs heures. Même pas des branches qui cassaient dans les bois. Et on a finalement réussi à s'endormir. Il n'y a jamais eu une attaque de loup non provoquée au Minnesota. Ça ne s'est jamais passé. Sauf que vous sortez et vous encerclez les loups, ils vont se défendre. Mais les loups restent loin des gens. Si cette meute de loups avait attaqué Janet et moi sur cette nuit, ça aurait été la première fois que ça ne s'est jamais produit. On était en fait en sécurité. Maintenant, quand les loups hurlent, là, votre cœur bat la chamade. Mais on était en sécurité. On était en sécurité. Ils n'allaient pas venir et nous manger. Ils ne font pas ça. Nous ne sommes pas ce qu'ils mangent. Ils préféraient largement manger des lapins, des biches, des orignaux.
Des orignaux.
The big animal with. Ah là, le grand animal avec des cornes. They would rather eat that. They don't eat. Ils préféraient manger ces bêtes-là que nous. Je vais répéter ça. Les loups ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Est-ce que Satan a déjà gagné sur un chrétien qui suivait Dieu?
Non.
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 Est-ce qu'on a quoi que ce soit à craindre du rugissement du lion?
Non.
Non. On n'a rien à craindre.
Tant qu'on suit Jésus,
si nous l'obéissons à lui, si nous marchons avec lui, il nous protégera. Rien ne se passera à nous. Rien ne nous détruira. Ça ne veut pas dire que certains d'entre nous ne vont pas être assassinés pour notre foi. Mais nous sommes victorieux dans ça. Parce que ça veut dire qu'on va voir Jésus avant tout le monde. Et on va, bien sûr, on va souffrir des choses difficiles, des épreuves qui nous donnent l'opportunité de démontrer et de montrer au monde ce que ça veut dire de marcher avec Jésus dans des endroits difficiles. Alléluia! On n'a rien à craindre du rugissement du lion. On n'avait rien à craindre du hurlement de ce loup. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre anxiété? Qu'est-ce que vous faites avec vos craintes? Est-ce que vous les remettez à Dieu? Est-ce que vous les lui donnez vraiment?
Est-ce que vraiment à Thanksgiving, vous êtes vraiment là à présenter vos requêtes à Dieu?
Vous savez,
des gens viennent me voir et dire, parce que je suis pasteur, dire, oh pasteur, j'ai cette situation, est-ce que vous voulez bien prier pour moi? Bien sûr, j'adore prier pour les gens. Mais laissez-moi vous mettre attentif à ça, vous rendre attentif à ça, ok? Commencez. Vous priez à propos de ça d'abord. Je vous tiens les mains et je prie pour vous, mais d'abord vous commencez. Parce que ce que j'ai appris est ceci. Il y a certaines personnes qui, à ce moment-là, ne savent pas quoi dire. Et ça me pose question. Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils prient? Ou est-ce qu'ils s'inquiètent? S'inquiéter et penser des choses et les repenser dans sa tête n'est pas prier. C'est s'inquiéter. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est aller devant le Seigneur et lui dire, tu es le Seigneur Tout-Puissant de tout l'univers. Tu as vu mon besoin d'être sauvé, et tu as sacrifié ton Fils pour moi, et tu prends soin de moi, et tu tiens à moi. Et maintenant, j'ai cette situation, j'ai ce problème. Je te le remets, parce que je sais que tu prends soin de moi, et je te demande de bouger dans cette situation et de me montrer ce qu'il faudrait que je fasse dans ces situations. Je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Mais je te remets toute mon anxiété, toutes mes craintes qui vont avec. C'est ça la prière, au nom de Jésus. D'accord? Et c'est différent que juste s'inquiéter de quelque chose. Y penser toujours. Le faire mijoter. Parce que sinon, vous êtes qu'en train de vous parler à vous-même. Vous n'êtes pas en train de parler à Dieu. Alors, je vous encourage. Allez-y. Priez. Remettez-le à Dieu. Quoi que ce soit, quelle que soit cette anxiété, remettez-lui. Vous pouvez lui faire confiance. Remettez-lui. Et alors, je vais prier avec vous. Ah, bien sûr, je ne veux pas que ça stoppe n'importe qui ici que vous veniez à moi pour me demander de prier, parce que je fais ça pour vous aider à grandir spirituellement, pour vous aider à grandir, d'accord? C'est ça le sujet principal. Maintenant, on a parlé pour un certain temps de l'anxiété et des craintes. Et je veux prendre 5 à 10 minutes en silence devant Dieu et qu'on puisse lui remettre maintenant notre anxiété, nos peurs. Pour dire, Seigneur, j'ai entendu le rugissement, mais je ne vais pas écouter ce rugissement. Je vais te regarder, toi. Pour trop longtemps, je me suis concentré sur ce rugissement ou hurlement des loups. Mais je sais que la sécurité vient seulement si je m'humilie devant toi. Et c'est à cette situation que je veux me placer maintenant. Avec toutes les choses auxquelles je pense, toutes mes craintes, je veux te les remettre, car tu es mon Salvateur. Tu es mon Sauveur. Tu es ma Pierre. Voilà, on va prier pendant 5 à 10 minutes. Donner nos anxiétés.